Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Le Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 10 octobre 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 11, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Voilà.
Pas de réponse, vous avez entendu là.
J'ai l'impression d'avoir fait un truc formidable, puis pouf, ça tombe. Ça. Émission exceptionnelle ce soir, comme toutes les émissions, puisque je reçois François Brignot. Bonsoir François Brignot.
Bonsoir.
Changer de manière acquise, alors je vous expliquerai après qui c'est, les auditeurs qui ne peuvent pas connaître
Jean-Gilles. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Gilles.
Bonsoir Serge.
Henri de Fersan.
Bonsoir.
Benoît Mancheron. Bonsoir. De Chiré en Montreuil et autres lieux découverts à marée basse. Et Emmanuel Ratier.
Bonsoir.
Alors voilà. Le sujet de ce soir, Henri Coston. Henri Coston, mémoire de la droite nationale. On parlera de lui, on dira un peu qui il est, qui est rentré à la maison du père il y a maintenant 2 mois.
29 juillet.
Le 29 juillet, oui. Donc 29 août, 29 septembre, oui, un peu plus de 2 mois. Discrètement, comme tout ce qu'il a toujours fait, d'ailleurs, ça a toujours été un homme d'une grande discrétion. Et on dira un petit peu, on essaiera d'en dire le plus possible sur lui. On espérait avoir ce soir avec nous Lamazière, Christian de Lamazière, mais il a un petit problème de santé. Donc, Emmanuel, il vous a fait savoir qu'il ne serait pas, il ne se joindrait pas à nous.
Oui, en fait, on peut le dire, Christian de Lamazière, donc le rêveur casqué, qui avait fait le premier voyage du France, a été invité pour faire le dernier, même s'il s'appelle le Norway, qui va être désormais, donc il va venir. Alors, peut-être a-t-il fait des excès culinaires sur le bateau, dirait-il qu'il est en examen.
Ils nous ont empoisonné à des examens
médicaux.
Ils nous ont empoisonné le rêveur Casquet.
Et il était absolument navré, mais il ne pouvait pas venir ce soir. Et c'est dommage parce qu'il avait connu Henri Coston à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Prague.
Dans un hôtel, voilà. Dans les hôtels de la République, non?
Non, dans la bibliothèque d'État de Prague.
Bien, avant, je voudrais d'abord signaler une erreur épouvantable que j'ai commise. Plusieurs auditeurs ont téléphoné au Libre Journal, 01 45 23 51 01, pour demander la date de la conférence du professeur Joyeux sur les effets des hormones sur les dames. Et comme un imbécile que je suis, je ne le cache pas, j'ai dit le 20 octobre, parce que j'ai confondu la conférence du professeur Joyeux avec la marche pour la vie de Renaissance catholique, ce qui est pourtant pas tout à fait la même chose, encore que ça a quelque chose à voir. Mais donc, alors, le professeur Joyeux à la mutualité, dites-vous-le bien, c'est le 16 octobre à 20h. Le 16 octobre à 20h à la mutualité, conférence débat du professeur Joyeux, qui vient de publier chez François de Guibert un livre remarquable qui s'appelle Femme si vous saviez et qui est consacré au véritable poison qu'est la pilule anticonceptionnelle et au danger de ce poison, entre autres. Donc, 16 octobre, 20h, à la mutualité, et non pas ce que j'avais dit par ailleurs. Le 20 octobre, pas à la mutualité, mais de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur, c'est la marche pour la vie de Renaissance catholique. Et le 13 octobre, c'est-à-dire après-demain, pour ceux qui nous écoutent mercredi soir, c'est le pèlerinage de tradition de Saint-Pédis, pèlerinage de Lisieux. C'est le 13 octobre et non pas le 14, comme d'autres l'ont dit, mais pas moi.
Oui, et j'ajoute
vous
que
faites
les gens
un pèlerinage, vous?
Non, mais j'ajoute que les gens seront très pris le 20 octobre, puisque le 20 octobre à 11h, il y a la messe en mémoire d'Henri Coston à Saint-Nicolas du Chardon.
Alors, comme c'est tout à côté de la mutualité, vous allez à la messe à 11h, pour Henri Coston. Ensuite, vous allez casser la croûte chez Amar, qui fait, je vous le signale, un couscous au gigot qui est tout à fait présentable, pour un prix pratiquement dérisoire. Et puis ensuite, vous allez à la mutualité pour la conférence du professeur Joyeux. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Ah non, non, ben non. Après, vous allez à la marche pour la vie.
Je voudrais vous dire quand même que le 13, justement, je ne serai pas des vôtres, parce que je suis à la forêt Fouesnant. Je marie madame pour la première, ma première petite fille.
Oh là, ça devient risqué quand on marie ses petites filles.
Et alors, un mariage.
On a vite fait de se retrouver
arrière grand-père. En Bretagne, c'est quelque chose.
Est-ce qu'on fait encore les mariages comme dans le temps, en creusant des tranchées dans les champs où on s'assied comme
non, ça, non, ça, non. Mais quand même, il y a beaucoup de monde. Et il n'y a pas que des nourritures spirituelles.
Ça, inutile de le dire. À la forêt Fouesnant, donc le 13.
La forêt Fouesnant, oui.
Donc le 13, mariage.
Elle s'appelle Marine.
Mariage de Marine, petite fille de François Brignot. Donc si vous passez dans le coin, et je pense qu'il y aura
C'est important pour moi parce que c'est la première petite fille à laquelle je pourrais être auprès d'elle pour ses noces. Et c'est important.
C'est bien. C'est vous qui allez la conduire à l'hôtel, non?
Non,
c'est son père.
Non, non, je suis trop modeste.
Bien, alors, voilà pour les annonces. Maintenant, je voudrais faire une annonce solennelle, personnelle. Je serai candidat à la présidence de la République. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison. Hein. Je pense que, Malia, tu vas être candidat.
Ah, surtout pas, je ne suis pas républicain. Alors.
Moi non plus, mais ça n'empêche pas.
Parce que... Il y a des gars qui peuvent être à la fois responsables d'une émission à courtoisie et candidats à une fonction aussi salissante.
Je te signale que l'exemple a été donné par notre leader Maximo Bien-Aimé, Jean Ferré, qui a dit qu'il serait candidat.
Ah oui, oh pardon, mais j'étais pas au courant.
Si, il a dit. Si, tu étais au courant, tu l'as entendu.
Je ne l'ai plus entendu.
Mais attends. Dès que sera instauré le trimestrat,
ah, oui.
Il sera candidat à la présidence de la République.
Ah oui, mais je voterai pour lui.
Ben moi aussi, bien sûr. Parce qu'il veut que ce soit... Enfin, quelqu'un lui a donné l'idée que ça devrait être un trimestre.
C'est un peu long.
Trimestre d'hiver pour un homme, et pour un homme l'été, et pour les femmes, trimestre de printemps et d'automne. Ce qui est délicat, je trouve, l'intersaison pour
c'est
les dames.
Charmant, c'est...
absolument charmant. Donc, il a décidé qu'il serait candidat dans ce cas-là. Mais moi, je n'attends pas le trimestrat. Je me présente pour un quinquennat comme candidat. Donc, je ne vais pas vous présenter mon programme. Si vous voulez mon programme, c'est extrêmement simple. Vous envoyez 700 francs au Libre Journal, 4 places France Lille, 75-010 Paris. Ah, parce que c'est quand même à ça que ça sert. Hein. C'est,
non, je croyais que c'était un canular dans le cas de Jean Ferré.
Non, non,
et tu es en train
tout,
de me dire que c'est une escroquerie, mais...
Non, dans mon cas, moi,
ah oui, toi.
C'est pas une escroquerie du tout. Un programme, ça se paye. Le seul intérêt d'être président de la République, enfin d'être candidat, c'est de faire du fric. Hein, il faut que ce soit bien clair. Comme on a quand même assez peu de chances d'être élu, faut le reconnaître.
Zéro.
Donc, zéro chance, tu crois vraiment?
Zéro.
Je te trouve dur avec moi. Ouais. Donc, il faut mieux faire le fric avant. Donc pendant la campagne. Donc si vous voulez connaître mon programme, il est toutes les... En plus, moi je vole pas parce que je vous donnerai vraiment un programme imprimé sur du papier avec de l'angle d'imprimerie et vous le recevrez tous les 10 jours le programme.
Faites comme moi. Comment faire fortune?
Faites comme moi. Donc 4 places France Lille, 75-010 Paris, vous recevrez tous les 10 jours le programme de Serge Dubéquetch qui s'appelle Le Libre Journal. Et puis j'utiliserai l'argent à bon escient, et même avec parcimonie, je peux vous le dire.
Eh ben, nos auditeurs sont toujours bien informés, parce que j'avais un message qui disait « Le bruit court chez Arte que Serge Dubéquetch se présenterait aux élections présidentielles. Qu'en est-il ?»
Ben, ils savent tout, voilà, ça y est, ils savent tout.
Et puis, on ne sait rien, on ne sait pas. Mayrakis dit qu'il ne sera pas élu.
J'en connais d'autres qui ont dit qu'il ne serait pas
élu. Chirac a bien été élu, alors...
Pourquoi pas Serge?
Oui. C'est vrai.
Et puis, il y a un auditeur aussi, toujours fixé sur son poste de télévision, me dit « Il me semble bien avoir reconnu Serge Dubéquetch dans les tribunes du stade samedi soir. Vous aviez un superbe maillot de l'équipe d'Algérie sur les épaules. Êtes-vous descendu sur la pelouse ?»
Absolument, c'est moi qui ai donné le signal, parce que j'ai trouvé, comme disait Malia, qu'un match de foot qui dure le temps d'un match de rugby, c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'ai donné à mes troupes l'ordre d'interrompre le match un quart d'heure avant la fin. De toute façon, c'était ennuyeux. Et puis quand même, c'était un match raciste, parce que je veux bien qu'on joue au football contre les Algériens, mais la moindre des choses, c'était ou de faire égalité, comme disait Zidane, qui souhaitait un match nul, il a d'ailleurs été vraiment nul, ou de faire 1-0 au maximum. Mais quand on reçoit les gens, on perd. Alors, simplement, ce qu'il y a, c'est que il y a deux joueurs... dont le nom m'échappe parce que je ne les connais pas.
Pires a dit, on jouait presque à l'extérieur.
On jouait en extérieur.
Ouais, ouais,
donc c'est
vrai.
Bien, on a emporté une victoire à l'extérieur. Alors c'est vrai, je reconnais que c'est moi qui ai déclenché le... Mais je ne suis pas arrivé à
l'extérieur. C'était un très beau match.
Oui.
Très beau
mais
match.
Je ne peux pas juger, là. Je ne suis vraiment pas... je ne peux pas.
Il serait même un peu de parti pris. Là.
Peut-être un peu. Hein. Mais mon rêve, c'était quand même que les 80 000 jeunes Français... Enfin, jeunes Sarcellois, Parisiens, Marseillais, Lyonnais, Bordelais...
Séquano-Dionysiens.
Voilà, Séquano-Dionysiens, déferlent sur Paris ensuite pour manifester leur joie d'avoir perdu.
Non, mais quand même, ça a été un samedi tranquille.
Oui.
Il y a eu 200 types qui ont couru sur une pelouse. Il y a eu moins de voitures brûlées. Il n'y a pas eu de gars agressés. C'était bien, on devrait faire un match comme ça tous les samedis. Et puis, on pourrait peut-être...
Moi, j'avais une autre idée, qui était une idée chilienne, vous voyez, de l'opération. C'est-à-dire que pendant le match, on soudait les grilles du parc. Et puis voilà, le principal était fait. Après,
et Jospin, qu'est-ce que tu en fais après?
Et ben, ce qu'il est arrivé, il s'est fait évacuer par hélicoptère avec la venette. Je ne sais pas si vous avez vu Lang. Il avait eu la prudence de revêtir un costume cacadois.
Ah bon.
Ce qui fait que, étant donné la tronche qu'il faisait pendant les événements, je pense que ça a aidé. Heureusement qu'il n'avait pas mis un costume clair. Et quant à Madame Guigou...
Elle a pris une bouteille sur la tête.
Son Chanel a été taché par du Coca-Cola.
C'est une mauvaise année pour elle. Hein.
Très mauvaise année pour
Madame Guigou.
Quant à Madame Buffet...
Madame Buffet, elle en a pris aussi. Hein.
Ça, on ne peut pas dire. Moi, cette soirée, je ne regardais évidemment pas le match. C'est mon fils aîné qui, pour mon grand drame, est un amateur de football éclairé, qui m'a téléphoné, il m'a dit « Papa, regarde absolument le match. » Je lui ai dit « Tu plaisantes ?» Il m'a dit « Regarde, regarde, regarde. » J'ai allumé, et à ce moment-là, j'ai vu, et j'étais content. J'étais vraiment content. Ça, voilà le football comme je l'aime. Malheureusement, ça n'a pas abouti à ce que je souhaitais. Parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la situation actuelle? Est-ce qu'on va avoir une guerre mondiale, oui ou non? Emmanuel Ratti, vous qui êtes un spécialiste de ces questions.
Moi, je suis pas un spécialiste de ça. Non, ce qui m'étonne, c'est il y a une, on a l'impression, bon, sans faire du complot et de l'histoire dans la coulisse, ce qui est très particulier en ce moment, c'est ce qu'on appelle les catastrophes en chaîne, les séries de catastrophes. C'est quand même absolument extraordinaire de voir depuis les attentats au World Trade Center le nombre d'avions qui s'écrasent parfois avec des missiles dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Le président ukrainien disant que c'est pas très grave pour le pays. Il y a des trains
ça,
qui,
évidemment,
il y a des
pour
trains
l'Ukraine
qui,
ou pour la Russie,
il y a des trains qui déraillent, il y a des trains qui déraillent en Allemagne, ouais. Il y a des catastrophes climatiques,
des petits
tout
avions.
À fait absolument incroyables. Il y a des avions comme à Milan qui en percutent d'autres. Vous avez des usines qui explosent et je sais que c'est la loi des séries, ce qu'on appelle toujours, mais c'est très très particulier, surtout quand on a vu les photos. Du World Trade Center en train de brûler. Alors, avec quand
votre,
même
votre athéisme libertin est en train d'en prendre des vieux coups dans la
non
dans
non le buffet, ça, ça n'a rien à voir mais c'est très très particulier
quand même. Oui, bien
et que... je pense qu'on est dans une le docteur Planté en parlerait beaucoup mieux que moi mais je pense qu'on est parti dans une loi de série donc on peut parfaitement aboutir par un engrenage effectivement à la troisième guerre mondiale puisque le commandant en chef de l'OTAN en Europe a déclaré qu'on avait commencé la troisième guerre mondiale.
Moi, je crois que c'est le bon Dieu qui secoue le tapis un petit peu.
Ouais.
François, vous, qu'est-ce, comment voyez-vous les
choses?
Vous qui en avez quand même une certaine expérience de la guerre mondiale.
Il y a une chose qui m'angoisse un peu et qui me peine, c'est que au début de la Seconde Guerre mondiale, il était évident que Israël avait une part de responsabilité. Et je trouve que si c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence, on ne pourra pas nier que Israël a une part de responsabilité. Je rajeunis un petit peu tous les jours ce qui me fait du bien. Et quand j'entends parler de Munich, toujours, j'ai même vu que le brave général Sharon, il parlait beaucoup de Munich. Mais pour un homme comme moi qui se souvient du passé, ça m'a marqué quand même un petit peu. Il faut bien dire que si on comparait quelqu'un à Hitler actuellement, c'est Sharon. Or, Hitler, en 1938, quand tout a presque commencé, il n'avait pas fait à la Tchécoslovaquie le quart du dixième de ce que Sharon a fait à la Palestine. Et donc, il était tout à fait normal que les autres pays s'entendent ou essayent de s'entendre avec lui. Nous arrivons à une répétition là de ce conflit où les gens qui ne prennent pas part directement à la guerre sont quand même derrière la guerre et je crois que c'est peut-être pas la troisième guerre mais ça commence à y ressembler.
Oui, c'est une assez bonne imitation. Malia, un commentaire?
Moi je me bornerai à voir ce qui se passe en France et à constater que Madame Buffet dont vous parlez a quand même été significative. Enfin je vais radoter parce que je vais dire ce que j'ai dit dans mon petit bulletin ce matin. Le 6 il y a les incidents dont nous parlons au match à Saint-Denis, berceau de la monarchie capétienne. Le 7, Monsieur U est candidat à la présidence de la République et emploie une expression très grave s'agissant de la guerre, parce qu'on est en guerre, c'est une guerre très nouvelle, bien sûr, mais il dit il faut pas tomber dans l'engrenage. Alors U, il est candidat, c'est tout. Madame Buffet, qui est ministre, met en garde contre l'engrenage. Le lendemain, n'est-ce pas, au moment même où toute la classe politique, tout l'établissement politique et tous les membres du gouvernement disent qu'ils sont totalement solidaires. Et puis, le lendemain, donc hier, puisque nous sommes aujourd'hui, M. Jospin reprend l'expression de l'engrenage. Or, une guerre, c'est un engrenage. Si on n'est pas dans l'engrenage, on n'est pas dans la guerre. Moi, je me borne à être très logique, et c'est tout, et à voir que, ce qui me semble beaucoup plus grave que des événements dans des pays que j'ai jamais mis les pieds, où j'ai pas du tout envie de mettre les pieds.
Surtout s'il faut prendre l'avion.
Oui, absolument. Non, je parle de l'Afghanistan, parce que c'est l'endroit... Eh bien...
Aller en Afghanistan, c'est une idée bizarre.
Remarquez, je crois savoir qu'il y a des soldats français. Et donc, je vois pas très bien comment on peut continuer à avoir des ministres de cette nature et un premier ministre de cette nature. Ni une constitution qui fait qu'on ne sait pas si la France est représentée par le chef de l'État ou par le gouvernement. Enfin, je trouve que ce que les Français devraient en profiter pour quand même réfléchir sur la gravité de leur situation à eux. Hein, c'est la seule chose moi qui me frappe.
Maintenant. Oui, moi ce qui me frappe aussi, c'est que si on a envoyé des Français en Afghanistan, c'est intéressant, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent rapidement pour aller à Sarcelles, par exemple.
Non, ça prouve que la France pourrait encore exister, ça prouve qu'il y a encore des gars qui sont candidats à Saint-Cyr, et je trouve ça merveilleux, quelle que soit la pertinence des ordres qu'ils vont recevoir via les politiciens. Mais en effet, on n'ose pas non plus le dire. Ça, nous sommes dans la guerre, mais pourquoi on n'entre pas dans cette guerre alors qu'on a universalisé l'émotion, comme on l'a fait? On n'entre pas dans cette guerre parce que nous avons peur du terrorisme des banlieues, ce qui est d'ailleurs un raisonnement
C'est totalement idiot.
Il
n'y a pas de terrorisme.
Ils savent brûler les gars qui étaient, oui. En effet, comme a dit François Brignot, les gars qui étaient sur la pelouse du parc, tout ce qui savent faire, c'est brûler des voitures, ce qui est très très embêtant, mais c'est pas de la nature et de la qualité technique de ce qu'on a vu le 11 septembre, qui est quand même des effets spéciaux à balles réelles sans précédent.
Les gangs ethniques des banlieues ressemblent à des talibans comme des porcelets d'élevage ressemblent à des loups affamés.
C'est exactement à peu près. Cela dit, dans ces porcelets d'élevage peuvent venir des loups affamés, mais
pour les manger, hein, c'est autre chose. Monsieur Fersin, quelque chose d'intéressant à dire?
Oui, bah juste au sujet de ce que disait tout à l'heure, à juste titre, François Brignot, parce qu'il faisait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Je pense que là, nous avons, si j'ose dire, l'inversion par rapport à la Seconde Guerre mondiale, puisque nous avons eu la guerre, entre guillemets, étrangère de 1940 à 1944, puis ensuite la guerre civile, 44-45. Et là, donc, après 20 ans d'événements en banlieue qui, dans certains coins, ont quand même ressemblent assez singulièrement aux prémices d'une guerre civile, nous avons en prime, maintenant, une guerre avec un pays étranger. Quant à l'Afghanistan, je crois pas que ça les gêne outre mesure qu'ils soient en guerre contre d'autres pays, vu que l'Afghanistan, ça doit être à peu près 6000 ans qu'ils sont en guerre, et quand ils sont pas en guerre contre une puissance d'invasion, ils se font la guerre entre eux pour garder la forme.
Benoît Manchon, je ne vous interroge pas. Non, c'est pas c'est l'édition. Vraiment.
Non, c'est pas seulement l'édition, mais j'estime que les choses sont encore un peu trop. Le mot engrenage me semble le meilleur.
Enfin, vous ne serez pas candidat.
L'analyse de manière, changer de manière.
Le mot engrenage vient pas de moi, il vient de U. Oui. Simplement, toute guerre est un engrenage.
Benoît Manchon est d'accord avec U.
Vous êtes en train. Écoutez, dites-le.
Vous êtes en train d'arranger votre situation.
Oui, notamment auprès
de. Je sais que vous avez beaucoup d'amis. Là, en ce moment, c'est en train de. Vous êtes en train de vous donner un bon coup de piston. Là. Alors, est-ce que quelqu'un veut.
Je pense quand même que dans cette affaire d'engrenage, il y a une peur normale du gouvernement. C'est facile à dire qu'on ne risque rien. Mais c'est que la situation à l'heure actuelle est une démonstration au tableau noir de l'incapacité de la droite et la gauche à gouverner ce pays depuis 30 ans. Parce que les dangers que représentent à l'heure actuelle 5 ou 6 millions de musulmans en territoire français.
D'islamisme, pas d'amalgame, François.
Oui, mais.
Peut-être pas faire l'amalgame.
Non, non. Mais c'est quand même une preuve énorme qu'ils n'ont pas vu le danger que ça pouvait représenter, ou ils n'ont pas voulu le voir, et pour certains, ils l'ont souhaité.
Mais oui, c'est ça ce que j'allais
dire. Et donc, quand ils sont maintenant devant une échéance terrible, ils ne sont ni responsables ni coupables que pour le sang, comme pour le sang contaminé. Ils sont responsables et coupables de rien. Et ça, c'est extraordinaire. Mais quand on voit les problèmes qui se posent à l'heure actuelle, on ne peut avoir, en bon sens, qu'une position. On ne peut faire que la politique de ses moyens si on n'a pas été assez intelligent pour se faire les moyens de sa politique. On ne l'a pas fait, ces moyens de la politique. Et à l'heure actuelle, on ne peut faire que la politique de la France de 2001. Et on ne peut pas aller se battre
aux côtés des Américains dans le monde entier, parce qu'on n'a ni les avions nécessaires, ni les bateaux nécessaires, ni l'infrastructure nécessaire, ni l'argent nécessaire à dépenser, d'une part. Mais surtout, la plus importante des parts, c'est qu'on ne peut pas dégarnir le front national. Parce que c'est le premier front, celui-là. C'est d'abord défendre les Français contre l'impéritie, contre l'incapacité des gouvernements qui se sont mis à leur tête.
Mais le fait est qu'ils ne font ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que on n'envoie pas, on n'apporte pas de soutien réel aux Américains, et il n'y a pas de raison de le faire à mon sens, mais on fait semblant en envoyant 2-3 clampins qui naturellement vont se faire ratatiner, ça sera des pauvres gars qui n'ont rien à faire là-bas.
Il faut savoir, enfin, sans être dans le secret des dieux, mais enfin, on a tous des amis qui sont dans l'armée, et en général des gens qui ont fait Saint-Cyr ou des gens corrects. Un certain nombre de, il y a à peu près 1 000 000 de soldats français actuellement qui appartiennent uniquement le commandement des opérations spéciales, le 13e ERCP, etc., qui sont des gens qui sont hyper formés, dont certains d'ailleurs ont été instructeurs en Afghanistan dans la lutte contre le communisme, comme il y a eu des instructeurs de la CIA. Il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de gens. Quand on voit dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique l'armée américaine détacher 20 à 30 voire 50 bérets verts qui sont capables de former des officiers qui ensuite entraînent les troupes. Il n'y a pas besoin d'entraîner. Le problème des Américains, c'est qu'ils ne veulent pas avoir de morts au sol. Et ils ont besoin d'avoir des gens comme les SAS anglais, qui à mon avis sont les meilleurs, comme les membres des services secrets français en opération, qui ne sont pas mauvais, qui s'enterrent sur place, parce que ce sont des gens qui sont larqués, qui arrivent avec des sacs de 85 kilos ou de 110 kilos de matériel, comme on l'a vu en Irak, ou comme on l'a vu pendant la guerre des Malouines, qui pratiquement s'enterrent sur place, sortent de temps en temps, regardent, et qui indiquent pour que les missiles arrivent au bon endroit. Il y a besoin de très peu de monde sur le terrain. Bon, et ces gens-là, c'est des vrais professionnels. Mmh. C'est pas du tout le piou-piou de basse, quoi. Le gros problème de... Enfin, c'est pas Rambo, parce que c'est pas du tout des gens comme les Américains avec des gros muscles, justement. Il faut être sec et félin, hein, et savoir pas boire de Coca-Cola et tenir pendant 15 jours à 3 semaines pratiquement sans rien sur le terrain. C'est ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Les Américains ne veulent pas envoyer de soldats américains au sol.
Tout ça, c'est en train de changer, Ratier. Il y a une chose qu'on ne doit pas perdre de vue, et les gens qui ont une expérience de vrais journalistes, on va arriver petit à petit à Coston, mais François Brignot qui est un vrai pro depuis très longtemps, sait très bien qu'il les choses se répètent et ne se répètent pas toujours de la même manière. Et là, l'attitude américaine a changé depuis le 11 septembre. Et je voudrais quand même bien suggérer à quiconque s'intéresse sérieusement au sujet de lire le discours de George Walker Bush du 20 septembre au Congrès des États-Unis. C'est fini, ça, l'histoire de ne plus envoyer des morts au sol. Ça va se terminer. Ensuite, il est intéressant de rappeler que les Français sont sur place et qu'on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire pour des raisons de politique intérieure. Mais il y a un point quand même. Et là, le passé est important pour éclairer le présent. La France est le seul pays qui ait mené une guerre anti-révolutionnaire islamiste et qui l'ait gagnée en 1957. Alors ça fait sûrement pas plaisir à M. Jospin. Mais
c'est pas grâce à lui, en tout cas.
Non, c'est pas grâce à lui, ni aux gens qui étaient un tout petit peu plus âgés que lui, ni au Parti communiste, mais ni aux gens qui orchestrent les campagnes contre l'armée française. Alors, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que ça déstabilise. Moi, j'ai le plaisir. Tu me parles. Tu vois, après-demain, je reçois des gens qui se disent encore gaullistes. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que ça veut dire aujourd'hui.
Perfect.
Mais il y a un point quand même sur lequel ils sont totalement trompés. C'est sûr, les dangers de sécurité intérieure qui vont être les vrais conflits de demain. Sur les armes, les besoins militaires de la France, qui sont pas, c'est pas avec l'arme nucléaire qu'on va combattre le terrorisme islamique. Hein, c'était vachement moderne. De toute façon, ça a fait faire des affaires, ça c'est sûr. Mais on a cassé une armée qui serait quelque chose d'irremplaçable dans l'Occident actuel. N'est-ce pas ? Et à mon avis, il y en a d'autres. C'est les Russes, mais les Russes, ils n'ont pas gagné. Et ils ont perdu. Et les Russes vont être des alliés indispensables des Américains. Voilà, bon, c'est pas vraiment le sujet de ce soir.
Il y a quand même
une chose quand on dit que les Américains, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer, pour l'instant, les Américains, ils sont dans l'air, ils sont pas au sol.
Non.
Et ça, ça nous ramène encore en 39-40, parce que j'entends un slogan dans ma tête. Nous fournirons les machines et vous fournirez les poitrines.
Ouais. Moi, je crois que ce qu'il faut pour comprendre, pour approcher, c'est d'approcher la compréhension de cette situation présente. Il faut reprendre les choses à zéro en disant quel est l'objectif de cette guerre. Alors, quand on nous dit c'est de lutter contre le terrorisme, c'est pas vrai. Le terrorisme, il existe depuis 40 ans et même avant. Je vous rappelle qu'un terroriste, c'est un terroriste jusqu'au moment où il a gagné. Après, ça devient un résistant. Donc, en l'occurrence, c'est vrai. Les résistants français, à l'époque où ils étaient dans la résistance vraiment, tout le monde les appelait des terroristes.
Certains les appelaient les terreaux et les terreaux,
voilà. Bon, alors, et les partoches. Donc, c'est tout. Il faut quand même dire les choses. Un résistant, c'est un terroriste. Qui a réussi. Un terroriste, c'est un résistant qui n'a pas encore gagné. Bon. Donc ce n'est pas une guerre contre la résistance, c'est une guerre pour servir contre le terrorisme, c'est une guerre pour servir des intérêts. Pour servir des intérêts, lesquels pour permettre aux États-Unis de s'assurer le monopole du contrôle de l'énergie, du contrôle des voies de circulation et du contrôle des flux financiers. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Je comprends parfaitement que les Américains veuillent contrôler l'énergie, la circulation et les flux financiers. C'est l'objectif, finalement, de n'importe quel pays qui veut prendre le pas sur les autres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous devons être les Shabbat Goy des Américains et aller faire le sale boulot pour leur compte. S'ils veulent prendre le contrôle, ils le prennent tout seuls. Mais les Français n'ont rien à foutre dans cette histoire. C'est pas nous qui sommes chargés des corvées de chiottes de Monsieur Bush. Hein. Il a qu'à faire sa guerre tout seul. Et nous, on reste chez nous. Voilà. C'est ce que je pense profondément. Alors, on va me dire que je suis munichois. Bah, peut-être, je suis munichois. Mais quand je vois qu'on a en tout et pour tout, enfin, je veux pas ressasser des évidences. Enfin, on a un porte-avions qui est pas fiable. On n'a pas de gros porteurs. Qui est en cale sèche. On n'a pas de gros porteurs.
Comment ce porte-avions?
Je me refuse absolument à donner son nom.
Lex Richelieu.
Il a même été candidat aux élections municipales.
Charles Daigle.
Lex Richelieu.
Bon, alors, donc, on n'a aucun moyen de figurer honorablement dans cette guerre. Si on a des moyens, c'est ce que vous disiez tous les deux, Ratier et Malia, tout à l'heure, on a des hommes qui sont des hommes exceptionnels, les gens des services ou les gens des bataillons d'élite ou des unités d'élite, eh bien, on va les envoyer se faire zigouiller là-bas dans une guerre. On n'a rien à foutre. Tout ça pour permettre à M. Bush de faire comme il a fait en Irak, comme il a fait en Serbie, c'est-à-dire d'assurer des voies de circulation sur lesquelles vont pouvoir transiter le pétrole et la drogue, parce que la drogue aussi, ça compte beaucoup dans cette histoire. Et on sait très bien que c'est l'objet final de cette guerre, c'est de permettre la libre circulation des énergies, de la drogue et du fric. Mais moi, j'en suis pas, voilà.
Comme quoi, les opinions habitent dans la droite nationale.
Ah oui, c'est certain.
Français.
C'est certain. Mais je le dis, ça fait partie de mon programme de candidat à la présidentielle. Envoyez votre argent pour soutenir ma candidature, 4 places France Litz.
Bien, on pourrait quand même avoir une pensée pour les Français qui sont justement sur le terrain.
C'est pour ça que ça me met en colère. C'est que
une chose quand même. Je trouve déplacé que des gens viennent à la télévision, comme M. Boucheron hier à LCI, dire d'un air suffisant « Je ne peux rien vous dire, mais nous avons du monde là-bas.
Oui. »
Quand on a du monde là-bas et du monde secret, eh ben on ne dit pas qu'on a du monde là-bas.
Et on vire les communistes du gouvernement. Oui. Voilà.
On peut pas virer les communistes du gouvernement
quand on a un premier ministre autrechiste.
Un premier ministre
et un président de la République qui vendait l'humanité.
Ça me semble évident.
Qui était fiché comme communiste par le FBI en 1953.
Oui. Voilà. Non, mais il faut le dire.
Faut pas rappeler.
Pourquoi pas le dire?
Je savais pas que c'était le sujet de l'émission.
Si, mais attends, c'est le sujet de l'émission.
Il faut bien dire une chose.
T'as pas compris quand t'avais piégé.
J'ai été arrêté.
J'ai compris quand t'avais piégé.
Arrêté, habillé en femme. Comment voulez-vous que ces gens-là ne pensent pas qu'il soit un espion?
Oui,
non, mais surtout que quand même, elle était mariée en première noce avec un officier quand même du Mossad, Madame Ridley, quand même.
Non, mais on parlait pas d'un Français. Madame Ridley, on parlait d'un Français, effet. Non. Ce que dit François Brignot est très important parce que ça souligne quand même l'aberration et l'impéritie des gens qui nous gouvernent. De dire en se tapotant le menton, en disant, vous savez, on a du gars là-bas.
Je ne peux rien vous dire, mais faites-moi confiance.
Voilà, pendant qu'il y a un type qu'on accuse d'être un espion. Et qui, lui, ne l'est probablement pas.
Cela dit, moi, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que ces talibans qui habillent leurs femmes avec des tentes du vieux campeur, ils se mettent dans la situation d'être entourés d'espions, parce que même moi, avec une tente du vieux campeur sur la tronche, je peux passer pour une matrone talibane.
T'aurais du mal quand même.
Oui, allez, bon. Alors, on a, cette émission est quand même censée être consacrée à Henri Coston. Je vois bien qu'on en vienne à ça, parce que sans ça, Benoît Mancheron ne pourra jamais dire un mot, comme il se refuse à prendre parti dans le.
On est en plein dans le sujet, en fait.
Voilà. Alors, à votre avis, François, vous qui l'avez bien connu, enfin tout le monde l'a bien connu ici, mais vous qui l'avez connu en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et même certains autres, comment il aurait réagi là à cette situation?
J'aime jamais dire ça, comme les morts, qu'est-ce qu'ils auraient fait? C'est toujours délicat, difficile, et puis on ne sait jamais. Mais il est mort, il avait 90 ans. On aurait fêté sa 91e année le 20 décembre, je crois, cette année. D'ailleurs, je voudrais dire juste un petit mot là-dessus. J'ai lu dans deux journaux qu'il avait disparu. C'est pas vrai. Il est mort.
Oui. Ça ne se dit plus.
Mais il n'a pas disparu parce qu'il reste toujours. Il a laissé une œuvre vivante, importante, originale, tout à fait personnelle. Il a démontré des choses non par des discours, non par de l'idéologie, non par des polémiques de mots, des astuces. Il a démontré des choses par des faits. Et l'accumulation des faits, tout seul ou avec sa femme ou avec un tout petit groupe de gens. Je vous raconterai peut-être, on aura le temps, une minute tout à l'heure, je vous raconterai une petite histoire là-dessus. Et il a fait une accumulation fantastique en 40 ans, 50 ans, dans des conditions les plus difficiles. Il a réussi à monter une démystification historique de notre histoire contemporaine. C'est prodigieux ce qu'il a fait. C'est prodigieux. Et donc, quand on a lu ce qu'il a écrit, on peut penser qu'il aurait aujourd'hui les réactions que la plupart d'entre nous avons, de méfiance, de dire français d'abord. Avons-nous la politique de nos moyens? Ne nous payons pas de mots. Et surtout, ce qu'il a toujours fait. Qui sont les gens derrière? Qu'a fait ce monsieur? Quel est le passé de ce monsieur? D'où vient-il? Qu'a-t-il écrit? Qu'a-t-il pensé? Voilà ce que je vais vous dire. Et c'est comme ça qu'il nous a permis, de comprendre. Et quand je dis le mot de Coston, et j'ai de l'admiration et de la reconnaissance.
Emmanuel Ratier, on a dit que vous étiez le successeur, le clone, le Coston, je ne sais pas comment il faut dire.
Le Costonaute.
Le Costonaute. Vous l'avez bien connu aussi, vous l'avez beaucoup.
Oui, oui. Non, mais ça, bon, c'est vrai qu'il l'a dit dans des interviews, mais enfin, bon, j'aurais d'abord dissipé
Vous n'êtes pas le fils naturel d'Henri Coston, c'est ça que vous voulez dire.
Non, mais on était extrêmement amis, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'ai moins bien connu, enfin moins longtemps que François Brignot, mais quelqu'un que j'appréciais.
Beaucoup d'endroits.
Bon, c'était mon témoin de mariage, c'était un homme extraordinaire. Bon, mais il y a une espèce de légende qui s'est créée disant que j'avais récupéré ses archives. Je précise bien à Smith Crow que je n'ai jamais eu une quelconque archive de
non, on peut dire que ces archives,
simplement elles ont été vendues pour une somme relativement modeste à un monastère orthodoxe qui est installé dans le sud de la France.
Ça a l'air complètement surréaliste.
Il a vendu l'intégralité de ce qui lui restait, mais qui était quand même assez conséquente, de sa bibliothèque, c'est-à-dire, je pense, entre 12 et 15 000 livres, à peu près, je sais pas exactement, plus tous ses manuscrits, ses notes, etc., plus toutes les archives qu'il pouvait avoir. Et ce monastère dans la revue qui publie, etc., annoncer que ces archives seraient accessibles aux chercheurs d'ici quelques mois. Voilà.
Moyennant un modeste baptême, non ?
Je ne sais pas.
Vous êtes obligé de vous faire baptiser orthodoxe pour
Serge, avoir... voilà. Quand on est catholique, on est baptisé chez les orthodoxes.
Oui, voilà. Enfin, pas complètement, comme disait... Ah non, écoute...
Parce que c'est le sujet.
Non, mais je précise, puisque tu engages le débat là-dessus. Bon, y a un vieux pope vétérocalendaire qui m'a dit, vous êtes baptisé, enfin, les catholiques sont baptisés, mais pas complètement.
Enfin,
pas complètement.
Voilà. Pour en revenir à Henri Costan, bon, mais je pense qu'on va en parler, Jean-Gilles, enfin, on s'était pas concerté, mais on s'était téléphoné un peu avant l'émission. Bon, en dehors de cette œuvre extraordinaire qui a commencé dès les années 20, enfin, dès les années 20, il a commencé à écrire, il a publié énormément avant la guerre. En fait, quand il y a un ouvrage qui doit paraître sur lui, puisqu'il y a une thèse qui est en train de se terminer, il a publié plusieurs centaines de livres et de brochures. C'est colossal.
Il est né en 1910. Hein.
Oui, oui, mais il a commencé à travailler.
Il a
commencé
ans.
À publier à 15 ans.
16 ans, le premier.
Oui, oui, ouais. Il a publié en 1926.
Bah, comme vous, François.
Et il a votre premier journal.
J'avais pas cette...
Le David.
Non, on ne peut pas comparer.
Et il a publié vraiment toute sa vie énormément. Et on aura peut-être les chiffres de tirage, mais c'est absolument colossal le nombre de choses qu'il a pu produire. Mais un des éléments en dehors de ce monument qu'est le dictionnaire de la politique française, bon, il y a d'autres bouquins, un des éléments, à mon avis, les plus intéressants d'Henri Costan, c'est que ça a été pratiquement le seul, il y en a peut-être eu d'autres, mais le seul, à maintenir la vieille tradition du socialisme national anticapitaliste.
J'ai jamais entendu employer le mot socialisme. C'est un anticapitaliste.
Si tu veux, cette tradition anticapitaliste, à l'intérieur de la droite nationale,
travailliste,
qui est...
Nationale travailliste.
Non, pas du tout. C'est un homme qui dénonce la haute finance.
Non, mais à l'intérieur de notre famille de pensée, bon, oui. Pour simplifier, la droite nationale, qui est gangrenée par le libéralisme, il a toujours maintenu l'idée qu'il y avait une espèce d'anticapitalisme, et il n'aurait pas été là, je pense que ça serait une école qui aurait pratiquement disparu maintenant. Et on se souviendrait plus de tous ces socialistes, anticapitalistes, de toute une série de gens comme ça, cette dénonciation de la haute finance, bon, du veau d'or, etc. Bon, c'est vraiment quelque chose qui était, dont il a été, je pense, un des derniers représentants en France, et c'est bien qu'il ait toujours été dans cette direction.
Moi, je crois que ce que vient de dire Emmanuel Ratier est à la fois très important, mais ne doit pas nous tromper, parce que c'est d'abord un homme qui n'est assimilable à aucune étiquette. Et donc, notre tentation intellectuelle, peut-être d'intellectuel, c'est de mettre des ismes partout. Or, s'il y a un isme chez Henri Costan, c'est le journalisme au sens fort du terme. Moi, quand je l'ai connu, il y a... moins longtemps que François Brignot, mais peut-être un peu plus longtemps qu'Emmanuel Ratier. Je l'ai moins fréquenté dans les dernières années de son existence, mais à l'époque de ma jeunesse, donc en 1960, son grand truc avec son épouse, c'est l'ABC du journalisme.
Ah oui.
C'est « Tu seras journaliste ». Et je dois dire... que jeune homme, alors que je préparais de toutes autres choses, j'ai été frappé par ça et je prenais le journalisme au sérieux, peut-être à tort, via Henri Costan. Henri Costan, c'est un homme qui a publié des centaines de choses, qu'on peut qualifier comme on veut et en tout cas comme certains ne voudraient pas, c'est-à-dire un peu sulfureux toujours, mais je voudrais souligner qu'il n'a pratiquement jamais fait l'objet d'une condamnation en, par exemple, en diffamation. Or, on ne peut pas dire que ce qu'il écrit est tendre. Pourquoi ? Parce que c'est un homme de méthode. C'est pas un homme de dogme. C'est pas du tout quelqu'un qui aurait cherché à se mettre une étiquette. Oui, il aurait été, comme dit François Brignot, il aurait, si on lui avait demandé son avis, en toutes circonstances, il aurait dit quelque chose comme français d'abord, comme de ramener les choses à un certain bon sens. Mais ce n'est pas un doctrinaire. C'est un homme de fait.
Si tu permets, Jean-Gilles, oui,
l'archiviste Jérôme.
Pour les auditeurs qui sont pas du métier, parce que nous, c'est des choses qu'on sait, mais il y a, naturellement, les auditeurs ne sont pas tous journalistes et ils connaissent peut-être pas parfaitement l'encyclopédie politique de Coston, il faut savoir que pratiquement tout ce qui a été, entre guillemets, révélé sur Mitterrand il y a 10 ans, enfin moins de 10 ans, il y a quelques années, ouais. tout, absolument tout, était dans Coston. Dans l'encyclopédie, il y a la Francisque.
Que les 1957.
Gens, 57.
Cet homme est dangereux, François Mitterrand.
Voilà, dans Lecture française, il avait fait un numéro spécial, effectivement.
Cet homme est dangereux, François Mitterrand.
Voilà, il en a parlé à très très nombreux.
Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que il y a des choses encore.
Il avait eu quand même, il faut savoir quand même, plusieurs visites de Catherine Ney chez lui,
oui, bien sûr.
Qui est venu le piller. Et il faut savoir,
comme il y a eu
des gens qui ont publié des bouquins sur Boussac qui sont venus le voir, lui demandant votre
dossier Boussac. Il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui, c'est extraordinaire, dans l'encyclopédie, des choses qui, si on les sortait pour les publier à la une de journaux réputés sérieux, provoqueraient un cataclysme politique. C'est étonnant. Je pense notamment toujours dans les personnages liés à Mitterrand. Il publie notamment des textes ahurissants d'appels à la délation et des choses comme ça qui sont signés de très grands noms de la politique, enfin de noms très connus de la politique française.
Et donc n'a jamais été condamné pour avoir publié ces choses qui sont très dommageable à la réputation des...
Non, parce qu'il ne portait pas de jugement personnel.
Voilà.
Il citait le texte. Il ne discutait pas le texte. Il disait pas, monsieur, vous êtes un Jean-Foutre, voilà ce que vous avez écrit, ici ou pas, n'est-ce pas, monsieur? Mais lui, non, il disait, tel jour, dans tel journal, monsieur un tel a écrit ce texte.
Bon. Point.
Point final. Et puis après, il continuait, 2 ans après, dans tel journal, monsieur, il ne disait pas, mais c'est une girouette. Enfin, les girouettes, c'est pas lui qui l'a fait. Non. Mais il a fait d'extraordinaires numéros de girouettes en montrant que des gens avaient écrit à des périodes différentes, avaient exprimé des opinions différentes à des périodes différentes, et toujours dans le sens du poil, bien entendu, et que celui qui était, parce que ça a été un grand systématique là-dessus, en 1950, quand il est sorti de prison, du bagne, il faut le dire, du bagne, il avait fait 50 bagnes quand même, la première chose qu'il a faite, il a commencé par épingler des gens qui avaient oublié un passé gênant. Et il l'a fait avec une douceur. Mais il a été implacable aussi là-dessus. Et tout ça a fait une mosaïque. Coston, c'est un homme qui parle les faits, qui parle les textes, qui parle les références, construit un puzzle énorme de la société qui est un tableau. Il n'y a pas le style de Balzac, mais c'est Balzac.
Ratier.
Oui, ce que tu disais, Jean-Gilles, enfin, ça me revenait pendant que François en parlait.
Excuse-moi.
Non, mais c'est bien parce que ça me revient. C'est à propos du journalisme. Bon, il a aussi mis le pied à l'étrier à pas mal de gens.
Mais il a créé des vocations.
Alors, je vais donner 2 exemples qui sont pas des secrets, puisque j'en ai encore parlé avec lui la semaine dernière, c'est Alain de Benoist.
Cédric de Gentissart.
Voilà. Ben, le premier article qu'a écrit Alain de Benoist, il l'a écrit dans un numéro spécial de Lecture française, qui était Journaux Parti Homme Politique, qui est à mon avis le meilleur bouquin qui puisse exister, extraordinaire, avec toute cette précision sur les journaux des années de l'avant-guerre. C'était un travail extraordinaire
de
densité. Bon, un autre exemple.
Une mine d'or qui enrichit le lecteur, il n'y en a pas beaucoup.
Bon, un autre exemple, c'est François Dorcival.
Oui.
Qui est aujourd'hui le patron de Valeurs Actuelles, oui. Il l'a peut-être un peu oublié, mais enfin, il m'en a parlé à plusieurs reprises. À l'époque, François de Sourcival était le patron des cahiers universitaires.
Oui. C'est la même époque et la même équipe.
Oui, oui. D'ailleurs, c'est la même équipe qui est un peu arrivée à Valeurs Actuelles à ce moment-là. Bon, il a passé 2 ou 3 coups de téléphone, mais il leur a dit, je crois que c'est parce que Bourgine lui avait demandé, j'aurais besoin d'un jeune pour me faire un article sur le milieu universitaire à Paris, un peu la politique, tout ça. Et puis, c'était le premier article de François Dorcival publié dans Valeurs Actuelles. Et je pense qu'il y en a eu pas mal d'autres comme ça, dont certains, un peu oubliés.
je pourrais ben témoigner non, que je suis ouais. peut-être l'un des derniers, d'ailleurs, à avoir été lancé dans Henri Coston.
Comment l'avez-vous connu?
Je l'ai connu dans les années 86.
Vous êtes tout jeune, vous avez quoi?
J'ai 35.
Non, 35, j'ai déjà un vieillard, c'est fini. Et puis, emmenez-le.
Oui, j'ai au début de... Parce que je suis rentré à la librairie, en fait, du Ken en 85. Et à partir de 1986, je suis allé le voir très régulièrement pendant environ 4-5 ans. J'y allais toutes les semaines et j'ai découvert un homme d'une affabilité extrême, oui. d'une gentillesse, qui en compagnie de son épouse, dans le 18e, rue de Tretaigne, travaillait d'une manière incroyablement tenace, sérieux, incroyablement sérieuse.
C'est vraiment important ce que dit.
Et il m'avait un peu pris sous son aile, parce qu'il découvrait quelqu'un qui ne connaissait rien à la politique, je ne connaissais rien à rien du point de vue politique. Et bon, il me donnait comme ça des éclairages, m'apprenait à rédiger des petites brèves. Bref, pour sa revue Lecture Française, dont il s'occupait encore relativement activement, il m'a appris un peu le métier de journaliste que je ne connaissais pas. Moi, je me contentais de savoir rédiger un peu dans le domaine littéraire, mais la politique, et surtout la rédaction politique, la méthode, l'utilisation des sources, des documents, je peux dire que je la dois à Henri Coston. Et j'ai d'ailleurs, enfin, avec lui, sous sa houlette, rédigé une petite plaquette, enfin, le fric est à gauche, qu'il a bien voulu co-rédiger avec moi. Et il avait l'espoir, bon, qu'on rédige d'autres ouvrages, mais je me suis rapidement aperçu, et notamment au contact d'Emmanuel, que je n'étais vraiment pas fait pour la rédaction de notices, ou qu'elle soit encyclopédique, ou qu'elle soit politique. Et du coup,
vous
mes relations.
Faire là-dessus, ce qui est intéressant, vous avez parlé de la contre-encyclopédie, qui est une chose dont on ne parle pas assez, d'ailleurs. Qui est un document vraiment prodigieux, hein, le travail qui est fait pour la contre-encyclopédie, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Mais enfin, ça n'a rien à voir. C'est...
Non, mais je voulais signaler qu'il avait...
Comment travaillait-il, techniquement? Est-ce que vous l'avez vu travailler, François?
Non, mais j'ai un témoignage de première main. J'ai eu un ami, un très cher, très, très proche, un meilleur ami, Henri Charbonneau,
ouais.
qui était un vieil ami d'Henri Coston. Il s'était connu avant-guerre dans les premiers combats, quand il trouvait que l'Action française n'était pas assez sociale et qu'il rêvait de faire l'Action française pas socialiste mais tenant compte du peuple, beaucoup plus du peuple, quoi. Tout ça, c'était dans les... Ils ont le même âge. Ils avaient le même âge. Coston est né en 10 et Henri est du 12 ou 13, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Et alors, Henri, peut-être les gens ne le connaissent pas, était un bon vivant qui avait fait des études de...
Henri Charbonneau.
Mais parce qu'Henri Coston... assez médiocre et une culture très vivante. Il parlait trois langues, quatre langues, ce qui en 1936-37 était rare. Il avait fait l'Espagne, il avait fait l'Allemagne, l'Italie, il connaissait beaucoup de choses et ils se sont trouvés dans le malheur ensemble. Et quand il se retrouve après la guerre, Coston a déjà remis en chantier son œuvre Lecture française, sa petite maison d'édition, à partir, ça. Et il fait un travail fantastique. Et Henri, qui est plutôt, encore une fois, un homme de grande qualité intellectuelle, mais joyeux. Il racontait ainsi. Je suis invité un dimanche, à passer le dimanche, chez les Coston, dans leur petite maison de Normandie. J'y vais, accueil charmant, repas léger, et dès les cafés, j'avais encore une petite faim, il faut bien le dire.
Ça, j'imagine.
Et puis une petite... Petite soif aussi, il faut bien le dire. Eh bien, Henri et Gilberte, sa femme, m'amènent sous le pommier. Et là, il y a une table Avec les journaux, il fait beau. Il n'y a même pas un petit flacon, rien du tout. Il y a les journaux, une espèce de sac au milieu. Alors il y a deux paquets de journaux, ceux qui ont été déjà lus et qui sont cochés en rouge et qu'il convient de découper et de mettre dans le sac, et les autres qu'Henri Coston lit et qui nous les passe quand il a coché, et on coupe. Et à 6h du soir, Henri Coston et Gilberte se lèvent et disent: on a passé quand même un bon dimanche.
C'est un peu du ratier, ça, non?
Non, oui. Venez passer un dimanche à Lyon, mais je suis pas d'accord, parce qu'Henri Coston aimait bien aussi La Bonne Vie, mais c'est vrai qu'il était sérieux dans le train. Absolument. Mais le problème, moi, je suis un peu la même chose. C'est qu'en fait, on ne peut pas, quand on fait de la documentation, si on a des trous, c'est fini. Donc on peut pas prendre de retard. Parce que quand on a 30 à 40 journaux hebdomadaires par jour, ben, si on travaille pas pendant deux jours, ça en fait 60... voilà, donc on est très vite débordé. Alors, puisque Christian Lamazière est pas là ce soir, bon, je vais raconter une anecdote que François doit connaître. Bon, je crois qu'il l'avait déjà un peu rencontré avant-guerre, peut-être à France au travail, ou des choses comme ça. Enfin, toujours est-il qu'il le retrouve à Prague en début 45. Je pense en février ou mars 45, donc c'est quand même, l'affaire paraît un peu râpée. Et donc il se retrouve un peu les Français à l'ambassade qui était là-bas. Et donc lui était officier de la division Charlemagne. Et Henri Coston, lui, allait à la bibliothèque de Prague. Enfin, Jean-Gilles, c'est peut-être le nom de la bibliothèque, mais
c'est le docteur Urban.
Bon, là-bas. Et alors, il épluchait les documents, c'était un peu des archives, c'était pas tellement des livres qui étaient là, mais il avait un peu inventorié ce qui lui paraissait intéressant au niveau d'un certain nombre de questions, notamment la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes, etc., la bibliothèque nationale tchèque, et puis en même temps, il examinait les archives, ce qui lui a permis de prouver que Hubert Beuve-Méry, qui était le journaliste accrédité par Le Temps dans le pays, était subventionné par le gouvernement local.
Mais il y a des choses beaucoup plus importantes.
Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de, enfin, tu vas le raconter, mais ce qui est extraordinaire, c'est de penser que en mars ou avril 45, alors que bon, Danemark, Céline est partie au Danemark, que bon, les gens commencent à se dire on va partir en Argentine où ils savent plus quoi faire. Lui, il est dans la bibliothèque en train de regarder les bouquins et les documents.
Et en plus, si je sais bien, sa femme était enceinte ou venait d'avoir un bébé. Donc dans ce grand chaos de l'Europe qui se déchire, qui se tue, qui va se retrouver dans les prisons, ceux qui étaient dans les prisons vont être remplacés par d'autres et ont un fusil, il pense encore
à son travail.
À son travail.
Mais avec un enfant.
Alors d'abord un petit mot quand même aussi. Qui me semble important d'hommage à Gilberte Coston, parce que le documentaliste, c'est elle au départ. Elle travaille à SVP, hein, et c'est une femme qui a une forme d'humour pince sans rire assez remarquable, et qui est toujours très... qui s'en tient aux faits. Et je dois dire que j'ai pas mal d'admiration pour le boulot qu'elle a fait et qu'elle a permis à Henri Coston de faire. Parce que il y a trois parties dans son œuvre. Il y a une partie qui est la partie de l'occupation, qui est à mon avis secondaire. Il a fait ce qu'il a pu faire, parce que un journaliste, a écrit dans des journaux. Il y a donc le Coston d'avant-guerre et le Coston d'après le déluge. Le Coston d'après le déluge doit beaucoup à Gilbert Coston. Il nous a à tous inoculé le venin de découper les journaux, mon cher Ratier. Moi, je m'en suis débarrassé grâce à Internet, parce que je travaille plus de la même manière. Mais c'est certain que ce vice infernal qu'il faut des épouses
héroïques
pour supporter un homme qui lit X journaux par jour, qui découpe, qui va découper, c'est bien pire. Et ça, c'est quand même la vie d'Henri Coston. Alors, il travaille énormément avec des journaux. C'est ce qui fait que c'est un homme irremplaçable. Non pas qu'il ait toujours raison, mais ce qu'il cite est toujours, en tout cas, une citation exacte.
Et la revue est très importante.
Ouais.
Ça mériterait de faire un jour un index complet de lecture française, qui pour l'histoire de la politique française des 40 dernières années, c'est un truc absolument extraordinaire.
Je crois que Chiver Montreuil, qui continue lecture française, ne manquera pas de le faire un jour ou l'autre, parce qu'il y a une équipe. Alors ça, à la fois les limites du travail de Coston, c'est que c'est très peu de gens, mais c'est aussi ce qui fait la qualité de son truc. C'est qu'il y a la patine de l'homme quand il parle de quelque chose. En général, il a connu les gens dont il parle. Il a la bouteille du journaliste. Il y a des choses irremplaçables qui est une alchimie personnelle qui fait que ce bonhomme dont personne n'ose en fait parler parce qu'il en a dérangé beaucoup.
Oui, mais pourquoi, hein, pourquoi? C'est ça aussi.
La droite n'en parlait pas.
Il faut le dire, pas du tout. Bah, très peu.
La droite, on parle de la droite nationale.
Il est à contre-courant. Par exemple, il fait un de ses premiers numéros spéciaux quand il sort lui-même de l'épreuve et meurtri et sans argent, sans soutien, sans réseau. Il n'a été d'aucun parti. Finalement, il a eu des amis dans tous les partis, mais c'est quand même un homme assez seul, sauf un petit groupe d'amis. Ses premiers numéros spéciaux sur le maréchal, on peut les relire aujourd'hui et 40 ans après, 50 ans après, il est 50 ans après, on peut les relire. Ce sont des numéros remarquables dans la conception, dans la réalisation et dans la somme de renseignements, d'informations qu'il fournit. C'est sûr qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas d'émotion, c'est le fait. Et là, je ne savais pas que Gilbert était archiviste
Compare ce qu'il fait, alors...
Et par ailleurs, pour compléter ce que disait François, bon, un des numéros spéciaux qui va sortir et où il va se fâcher avec beaucoup de gens, mais où il avait raison, c'est 58, le retour de De Gaulle.
C'est la seule fois où
un des très rares, très très rares, dans ce qu'on peut appeler globalement les pro-Algérie français, en disant De Gaulle est dangereux, il va larguer l'Algérie française. C'est pratiquement le seul, des très rares.
On peut les citer, Maurice Bardèche, Jacques Izorni, l'équipe de Jeunes Nations,
peu de gens. C'est une cassure. Les gens disent non, c'est le sauveur.
Il va perdre la moitié de ses lecteurs.
Et il ne les retrouvera jamais.
Ça me rappelle quelque chose.
Oui, mais c'est le contact d'Henri Coston nous a tous... de façon différente, nous a appris beaucoup de choses, et notamment ça, par exemple. Attention, Serge, tu fais un journal. Tu es en train de prendre une position que tout le monde ne partage pas forcément sur la guerre d'Afghanistan. Eh bien, tu vas voir la gestion des abonnements. Mais enfin, tu es aussi un journaliste d'expérience.
Mais alors, dans ce cas-là, il faut faire le journal des pompes funèbres, parce qu'on est sûr qu'on a tout le monde comme client.
Ils
s'abonnent pas. Voilà.
Donc, ce n'est pas un homme qui prend parti. Il a ses idées. Mais son lectorat est très dispersé dans tous les ventails politiques. Hein, il est lu en secret par des tas de gens qui ne le citent jamais.
Ça, c'est un aspect aussi. Le nombre de gens qui ne le citent jamais.
Vous permet de le savoir.
En le pillant d'une façon éhontée. Mais alors, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de dire.
J'ai géré le fichier à la main, ce qui permet de se souvenir des noms. L'informatique libère de beaucoup de la mémoire. Et c'est extraordinaire de savoir les gens qui lisent Coston, des sénateurs de gauche, des députés.
Jusqu'à 80 ans passés, il avait une mémoire très précise. Ouais. Quand je me souviens d'avoir fait une erreur en lui parlant, il m'a rectifié gentiment. Non, François, c'est pas ça. Bon, je me dis. J'étais sûr d'avoir raison. Je me mange la moustache, je rentre chez moi, et puis je vais vérifier. C'est lui qui avait raison.
Juste un point, parce que j'ai été à cette école-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on croit que les gens comme ça, c'est parce qu'ils ont de la mémoire qu'ils sont comme ça. Non, c'est parce qu'ils ont comme ça qu'ils ont de la mémoire. C'est comme... Non, mais c'est important. Parce que c'est comme l'histoire d'apprendre à réciter des tirades de Victor Hugo. Je ne vais pas réciter celle du Rothschild de Waterloo. On va encore dire que
j'exagère.
D'ailleurs, chapeau bas, ce passant, il sait de...
Je suis pas contre.
C'est son heure, à l'heure où tu perdais ton sang, il jouait à la baisse et montait à mesure que notre chute était plus sévère et plus dure. Ça, je l'ai appris en lisant Les financiers qui mènent le monde. Voilà. Les financiers qui mènent le monde, dernier point.
C'est un livre poétique.
C'est un livre qu'il a écrit deux fois. Le premier manuscrit a été jeté dans le Danube.
Oui.
Alors, il aimait pas, mais c'était pas François Brignot, c'était pas ce lyrisme celtique, c'était de ces provinces du centre.
Et pourtant, il était celte aussi.
Oui, mais des celtes du Massif central. Très important. Et donc,
il n'a pas fait de bonnes affaires.
Quoi. Vos mémoires, vous devriez les intituler le manuscrit jeté dans le Danube. Voilà.
Il n'aimait pas. Aux gens qu'il pillait, bon, il avait quand même pas mal de contacts.
Qui le pillait. Oui, oui.
Il avait quand même quelques amitiés. Bon, et il a eu une amitié tout à fait étonnante, enfin particulière, avec Émilien Amaury, ce qui est très peu connu.
Émilien Amaury qui était le patron fondateur du Parisien, grand résistant, grand anti-maçon. Grand dont d'ailleurs tous les rédacteurs en chef étaient francs-maçons, il faut quand même le dire.
Pas Bernard Cabanne quand même.
Peut-être pas. Non mais Cabanne était déjà là quand Amaury était vivant. Non mais
et dont le rédacteur en chef avec une femme qui était Madame Jospin la première.
Absolument. Qui pourfendait le chef d'orchestre invisible.
Oui, ça c'est dans Carrefour.
Dans Carrefour.
Mais Émilien Amaury donc lui avait commandé. On va peut-être raconter un peu des choses confidentielles, quoi. Bon, mais il se trouve que Henri Coston avait un ami qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, Monsieur Pompidou.
Fred.
Ça dépend.
Pompidou.
Celui qui était dans la LVF.
Fred Pompidou.
Qui était libraire.
Voilà. Et Monsieur Pompidou
Fred.
Avait l'habitude d'aller déjeuner régulièrement à l'Élysée. C'est Henri Coston qui me l'a raconté à plusieurs reprises, je pense qu'il y a d'autres gens qui le savent, quand M. Pompidou est devenu président de la République. Et c'était donc son oncle. Mmh. Bon. Et avant d'aller chez voir Georges Pompidou, il passait chez Henri Coston.
Fred Pompidou était l'oncle de Georges.
Voilà.
C'est ça, il faut...
Il était plus âgé, il était dans la LVF.
Bien sûr.
Donc, avant d'aller à l'Élysée, à peu près une fois tous les 15 jours, déjeuner, il allait voir Henri Coston pour se faire briefer.
Ah oui, assez formidable.
Et Georges Pompidou, qui avait fait carrière chez les Rothschild, mais qui en avait quand même eu assez à un moment de passer pour le brave
chien. Le valet de la haute finance.
Voilà, le valet de la haute finance, avait relativement peu apprécié ce qui s'était passé aux États-Unis. Quand il avait fait son voyage, où il s'était fait cracher dessus.
Lui et sa femme.
Et il avait été extrêmement choqué pour sa femme. Ce que je raconte là, je pense, n'est jamais sorti nulle part. Mmh. Et donc, Georges Pompidou s'entendait assez bien avec Émilien Amaury. D'autant que les liaisons étaient assez faciles à faire. Donc il a chargé Henri Coston de préparer un dossier sur les menées sionistes en France et dans le monde.
Qui, Pompidou ?
Monsieur Amaury.
Amaury,
pour préparer une série d'articles.
Ouais.
Et Henri Coston avait préparé une grosse mallette avec tout ce qu'il avait pu entasser, ce qu'il avait sélectionné pendant des années. Et il a remis cette mallette à Émilien Amaury et cette mallette se trouvait dans le coffre de la voiture le jour où Émilien Amaury est mort d'une chute de cheval. Il lui avait remis le jour même. Henri Coston me l'a raconté. Bon, Benoît Mancheron opine du chef. Il y a d'autres personnes qui le. Bon, maintenant qu'il est décédé, on peut le raconter.
Tout à fait, des épisodes
comme ça, il y en a beaucoup.
Donc, Émilien Amaury est décédé, que Georges Pompidou était décédé.
Mais ce qui prouve que ça...
Souvenons-nous des discours de président Pompidou.
Que M. Jospin a changé d'épouse.
Souvenons-nous de... Et de père. Souvenons-nous de Georges Pompidou disant sobrement « La France a besoin de réconciliateurs, je suis Henri oui. IV ». C'était très exactement à cela dont il pensait.
L'affaire Touvier.
Alors, qui veut se livrer à l'exercice? Parce que je pense qu'il faut le faire maintenant, de faire un portrait physique de Costant. Parce que nos auditeurs, beaucoup d'auditeurs, ne l'ont jamais vu. C'était quand même un personnage qui mérite...
Il y a Roland Gaucher qui l'a vu, qui était séduit par un discours de Costant dans un meeting. Il a une chance extraordinaire, Roland Gaucher. Il faut dire que c'est un grand journaliste aussi. Et s'il a rencontré Costant, c'est sûrement dans un meeting, parce que ça peut pas être dans une autre circonstance.
C'est les francistes ou le PPF.
Mais non, je veux dire...
Mais si.
Mais il n'a jamais pris la parole en public, il ne voulait pas prendre la parole.
Si, aux francistes, il la prenait, la parole.
Quand ils avaient été attaqués par...
Revenons à...
Pendant l'occupation.
À ce sujet, c'était donc un homme qui effectivement...
Il a fait campagne électorale à Alger aussi, donc il a forcément pris la parole.
À l'époque, Roland Goguillot était très très jeune.
Non, mais il parlait en public.
Il était très jeune, non. Il avait.
Quand Costant se présente à Oran comme candidat d'Union latine.
Ah non, c'est pas ce moment-là.
Non. Je sortais une bêtise qui vaut 2 centimes. Donc on arrête. Je le ravale.
Henri Costant était un homme.
Il a su.
Enfin, petit, mais pas forcément plus petit que les gens de son époque.
Il était moyen.
Voilà. Et c'était un homme qui était mince. Moi, je l'ai jamais. Bon, je l'ai connu pendant, je sais pas, 25 ans à peu près. Il était très mince, maigre, plutôt souffreteux. Les gens que j'ai connus m'ont toujours dit qu'il l'avait toujours connu comme ça. Mais qu'il les enterrerait tous parce que il avait une espèce d'instinct
un
de vie assez extraordinaire. Et j'ai vu des photos de lui dans les années 30 où il est exactement, il est d'une de quelqu'un de mince
avec des cheveux longs.
Il y a une admirable photo de lui avec Plancard à sac et où ils font
Jacques. Beau jeune gens.
Dégageurs.
Oui, oui. Hein.
Mais c'est des chasseurs à pied.
Il était extrêmement. Ce qui m'avait frappé.
Il a été marié 3 fois.
Ce qui m'avait frappé, c'était son élégance.
C'était un coquin. Il était sapé Milord.
Absolument.
Hein.
Oh, c'est toujours. Et même très tard.
Et puis
quand
il y avait une jolie dame dans l'assistance, oui. Mine de rien, il interrompait. C'est un discours extrêmement sérieux. Je voudrais vous dire, Monsieur François. Et le regard, on avait compris que c'était pas un veau qui venait de passer.
Et ce qui est amusant pour conclure sur ce point, c'est que sa dernière création, ça a été
Nous les Françaises.
Il avait 86-87 ans quand il a décidé de lancer Nous les Françaises. Bon, ça n'a pas. Évidemment, il a vite été occupé par d'autres.
Bien sûr qu'à 86 ans, on intéresse moins les Françaises.
On va interroger Mathilde Cruz sur la question.
Ouais, elle n'est pas là, elle est partie. Elle a pris sa retraite, Mathilde.
Elle est là, elle vous attend.
Voilà, alors je vous propose maintenant de donner la parole. Alors le principe de l'émission, c'est qu'on lit tous les messages. Sauf ceux qui sont
sérieux,
qui nous envoient en prison directement, sans passer par la case départ et sans recevoir 20 000 francs.
Sur Henri Costant, une auditrice nous dit « Henri Costant avait été affaibli définitivement par la grave agression qu'il avait subie, malgré son grand âge, d'un secrétaire de Gaubert. »
Non, c'est pas un secrétaire de Gobert, c'est un journaliste de l'événement du jeudi.
Un photographe, très précisément.
Je lis ce qui est écrit entre guillemets.
Non, c'est pas un photographe. Non, puisque moi j'ai le nom.
L'événement du jeudi.
Oui, j'ai le nom de la personne, puisque je lui ai montré le.
C'est calme.
Il m'a raconté l'épisode, etc. Bon, il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion de faire des photos d'un certain nombre de gens, mais il y avait quelqu'un de très précis auquel je pensais. Je lui ai montré la photo. Sa femme était là le même jour où il était agressé sur le trottoir. Et où finalement, bon, il a été violemment projeté par terre et où il a eu le fémur qui s'est fissuré. Mais comme ça apparaissait mal à la radio, en fait, le fémur s'est cassé au bout de plusieurs mois. Il avait de plus en plus de mal à marcher. Après, on lui a mis une prothèse, ça n'a pas marché. Enfin, c'était un peu à l'origine de son décès. C'est un journaliste de l'événement du jeudi, oui.
Enfin, c'est un homme se disant journaliste.
Non, mais il avait la carte de presse.
C'est pas parce qu'on a la carte de presse qu'on est.
Et bon.
pour Henri Costan à qui j'avais vraiment donné les éléments, qui au départ avait porté plainte contre X, je sais pas pourquoi, enfin bon, c'était peut-être un peu la vieille, a pas souhaité porter plainte nommément contre la personne, alors qu'elle était clairement identifiée par lui, sa femme et un autre témoin.
C'était peut-être pas la vieille, c'était peut-être la sagesse.
Alors, sur le début de l'émission, en tant que Français, je suis rassuré. À voir comment les autorités sont capables d'assurer la protection d'un stade, on se dit que la France est en sécurité.
Très bien d'être optimiste.
Monsieur de Beketch, vous avez l'air d'être satisfait de ce qui est arrivé aux États-Unis, à New York. Continuez donc à manger du couscous.
Ça n'appelle pas de réponse. C'est une interprétation.
Je préfère être du côté des Américains qui nous ont déjà aidés pendant la guerre que d'être du côté des islamistes qui viennent nous envahir. Il faut être cohérent et choisir son camp.
Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on est obligé d'être d'un côté.
Peut-on...
Moi, je vais dire comme Mimoun. Je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis de France. Voilà. Alors, je suis ni d'Amérique.
Il y a quand même une chose à dire, là. Une chose à dire, c'est que les Américains qui sont venus nous sauver, ils nous avaient mis dans la de panade depuis 1918 jusqu'en 1939 parce que ils ont eu une grande responsabilité dans ce qui a amené la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale.
Peut-on vraiment reprocher à l'islam d'être dynamique et de propager son message? Est-ce de sa faute si les Occidentaux délaissent le christianisme et choisissent à sa place l'athéisme et le libertinage?
Je reprocherais plutôt d'être dynamite que dynamique, mais...
Lundi dernier, nous dit cette auditrice, j'ai eu une discussion particulièrement animée avec une famille maghrébine que je connais bien depuis des années. La fille aînée m'a affirmé, nous haïssons les Américains, mais nous les craignons et avons du respect pour eux. Pour les Français et leurs dirigeants, notre mépris est bien supérieur à notre haine. C'était après le match de foot. Si j'avais eu cette discussion avec une famille que je ne connaissais pas, cela aurait pu mal finir. Reportage sur LCI aujourd'hui à 18h. Des jeunes de banlieue disaient « La France me dégoûte. Ben Laden, on va tous le suivre. » Pasqua a répondu...
L'Afghanistan manque de bras, alors.
Pasqua a répondu « On paie 16 ans d'angélisme socialiste. »
Ça lui va bien, celui-là. Il est gonflé, quoi. Les gens qui ont du
culot... Nous allons terroriser les terroristes.
Alors ça, les culottés, il y a pas quoi. Je dois dire quand même qu'il y a aussi mon excellent camarade Berlusconi, qui dans la série « Je défends la culture et la civilisation occidentale que j'incarne », et c'est pas mal non plus. C'est évident, si la civilisation occidentale, c'est la téloge de Berlusconi avec le strass et les nénés à l'air, je comprends que tout le monde soit pas convaincu de sa supériorité sur la civilisation islamique. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est mon opinion et je la partage.
Félicitations à Serge de Beketch, non pas pour ce que vous venez de dire, mais pour tout à l'heure. Monsieur Bush, père a occupé l'Arabie Saoudite. Monsieur Bush, fils, prend pied en Asie centrale pleine de pétrole. Quelle famille! Il est surprenant que les États-Unis ne détruisent pas la moindre plantation de pavots en Afghanistan, ce qui est pourtant la principale ressource. Qu'en pensez-vous ?
Mais elle était jusqu'à l'année dernière.
Ils ont payé du fric, combien ? 75 millions de dollars ? C'est ça ? Pour arracher les plants de pavots. Alors naturellement, les pages d'Aran ou je ne sais quoi, ils ont pris le fric, ils ont laissé les plants de pavots. C'est vrai qu'il n'y a personne pour aller vérifier.
Une auditrice, je suis contre la politique américaine au Moyen-Orient, je suis contre l'embargo sur l'Irak, j'ai soutenu les Serbes, mais depuis le 11 septembre, je pense que c'est notre société occidentale qui est en danger, ainsi que ce qui reste du monde chrétien.
Bien d'accord.
Félicitations à M. Brignot qui va aux véritables causes des guerres. L'Alliance, sur LCI toujours, l'Alliance du Nord a dit... qu'il n'avait jamais demandé le soutien des Français pour la bonne raison que depuis 7 ans, la France a totalement ignoré, à tout point de vue et en particulier, le commandant Massoud, reçu comme un chien, qui avait pourtant prévenu de tout cela. Je suis contente des paroles de Jean-Gilles Maliarakis au sujet du président Bush. Les Américains aiment leur pays et leur drapeau. Alors, connaissez-vous les relations qu'Henri Coston a eues avec Louis-Ferdinand Céline ?
Ah oui,
Il est un fait que quand Louis Ferdinand Céline a écrit les fameux pamphlets, il s'est intéressé à une documentation dont il a transformé, n'est-ce pas, par son espèce d'alambic poétique. Je ne parle pas du fond hein, des livres, et il a à ce moment-là fait la connaissance d'Henri Coston, et je crois. Vous savez, en échangeant des souvenirs, on n'a pas forcément connu le même homme, mais je crois qu'Henri Coston aimait énormément ce que représentait Louis Ferdinand Céline.
Alors, ce qui est exact,
on l'a pas vu sous les mêmes angles, il nous a pas forcément dit les mêmes choses.
Ce qui est certain dans cette affaire, et j'insiste bien, qui n'est jamais paru dans aucune biographie ou article du bulletin célinien. Moi, j'en ai discuté avec Henri Coston. Henri Coston m'a dit qu'il avait préparé, comme sans doute d'autres personnes, une documentation à Louis-Ferdinand Céline. Voit bien que ces ouvrages qu'on qualifie de pamphlets, bon, cette petite série n'est absolument pas comme les autres ouvrages de Céline, puisque c'est découpé avec des espèces de citations extraites de journaux. Et on n'imagine pas du tout Louis-Ferdinand Céline, même s'il écrivait, il y a suspendant des trucs avec des passes à linge, découpant pendant des années des petits articles. Bon, et il fallait que bien quelqu'un lui ait fourni la documentation.
C'est quand même extraordinaire.
Alors, actuellement, il y a peut-être un ouvrage qui paraîtra sur la question, parce que Alain de Benoît avait publié un ouvrage assez intéressant sur Louis Ferdinand Céline et l'Allemagne en coédition avec le bulletin célinien, et depuis il a continué sur la question, et il m'a dit qu'il avait fait beaucoup de découvertes sur les liens qu'avaient eu Coston et Céline au moment de cette affaire. Et bon, il espère pouvoir les publier, mais il m'a dit j'en ai au moins 200 pages. Mais
c'est extraordinaire pour l'appréhension de l'histoire cachée.
Je voudrais parler de Bernanos, oui.
Juste un mot. L'appréhension de l'histoire cachée, c'est extraordinaire de penser que Coston a pu être le documentaliste de Céline, de Lucien Amaury et de Pompidou.
On va pas aller jusque-là. On va dire c'est un documentaliste. Oui. Parce que,
c'est un raccourci.
Juste une chose, Céline dit « Je me suis marié en Bretagne, histoire d'éviter les foules et les emmerdements. »
Là, il ne savait pas ce qu'il fait.
Voilà ce que je veux dire. Il y a une déformation des faits dans le génie poétique et authentiquement celte de Bardamul.
De toute façon, tu peux te marier où tu veux, tu n'évites jamais les emmerdements.
Non, il y a une chose, c'est qu'il a travaillé sur des documents, il a une inspiration, il pense à l'antisémitisme, il a une expérience personnelle qui lui a donné des réactions personnelles. Et pour nourrir, il s'adresse à des gens qui ont étudié le problème.
Et alors ?
Et Henri Coston n'est pas le seul. En restaurant, une petite équipe.
Et Coston, c'est toujours... Alors, c'est quand même un point qu'il faut quand même bien ramener à ce que disait Emmanuel Ratti au départ. Coston, c'est toujours la question du gros argent, de la plutocratie. C'est ça, son problème.
Oui, et puis des forces caché qui dirige le monde, c'est toujours. Donc c'est pas forcément uniquement à cause de l'argent, c'est aussi pour des idéologies, parce qu'on a oublié un mot, et qui est un mot clé de son œuvre, c'est la franc-maçonnerie, la lutte contre la franc-maçonnerie. Si on parle de Coston sans parler de ça, on ne dit rien. J'ai écrit deux ou trois livres, si j'avais pas eu avant les compilations fantastiques d'Henri Coston, j'aurais pas pu l'écrire, comme le bouquin que j'ai fait sur Ferry, le pamphlet que j'ai fait sur Ferry, et on ne peut pas écrire, par exemple, l'histoire de la Troisième République sans lire la République du Grand Orient. Tout y est, non, pas tout y est, beaucoup de choses. Et on revient à notre premier problème, que c'est fabriqué sous le pommier. Maison tous les dimanches, et parce que peut-être en semaine ils n'ont pas le temps d'écrire. C'est formidable d'avoir ça, et parce que quand il n'a pas le document, il donne l'indication qui permet de le trouver. Il donne le nom, la référence. Il référencie toujours. Ce qui fait que pour celui qui écrit après lui, s'il n'y a pas eu ce premier travail, ce premier pic dans la mine qui on n'aurait pas pu le faire, mais brusquement. Et il a écrit un petit livre sous un faux nom, Saint-Pastour, je crois, et où il donne le nom des maçons.
Au Parlement.
Au Parlement, depuis 1871 jusqu'à 1940. Grâce à ça, j'ai pu, moi, trouver le nom des maçons qui avaient voté pour le maréchal Pétain le 10 juillet 1940.
Ouais. Et alors, et Bernanos, alors?
Alors Bernanos, si on veut, il faut lire un texte remarquable de Bernanos, qui est dans Les financiers qui mènent le monde. C'est quand... Henri Coston, tout jeune, reprend le titre fameux qu'on n'a pas le droit de citer puisqu'il y a libre parole. Et il dit, je vais essayer de le paraphraser, il dit, faites attention à une chose, quand on met une enseigne sur sa boutique, qu'on voit venir des gens qui sont imprévus. Et il pensait aux sots, il pensait plus aux sots qu'aux méchants. Et ce texte, je crois qu'il faut le relire si on veut comprendre aussi la déformation de tout ce qu'a fait Coston, parce que moi je voudrais souligner aussi une chose, je trouve formidable qu'on ait l'occasion d'en dire du bien, d'autres pourront s'acharner à en dire du mal, mais ce qui était extraordinaire quand j'étais jeune, et ce qui pour moi m'impressionnait beaucoup chez cet homme-là, c'est que c'était l'homme que tout le monde lisait mais que personne ne citait, même son nom était interdit, on ne le disait pas, et peut-être que ce que vient de dire François Brignot à propos d'un des sujets de Coston, qui est cette société philosophique et philanthropique qui fait la gloire de la France et qui fait aussi, qui peuple aussi les allées de la République.
J'espère que je ne vous ai pas choqué, au moins.
Pas du tout, cher François. On en a entendu d'autres, et des pires. Benoît, mange-moi un mot sur...
Non, juste un mot au sujet de Bernanos, parce que c'est très important. On peut quand même citer Drummond à propos de Coston.
À propos de Bernanos aussi.
Et à propos de Bernanos. Il faut savoir que Bernanos a aussi profité de certaines lumières de Coston en ce qui concerne Drummond.
Mais on n'a pas idée. Il faut lire les mémoires de Daudet, le journal de Léon Daudet, pour mesurer ce qu'a été.
C'est ce qu'il m'avait dit.
Ce qu'a été l'émergence.
Il m'a montré une lettre, notamment.
La grande peur est de 1928.
Oh, je ne sais plus la date exacte de la première parution de la grande peur des bien-pensants.
Je penche un peu pour le questionnement de François Brignot. Je crois qu'on est tous on a tous grandi dans la lumière de Bernanos.
Qu'il est connu, Coston, après...
Ça, c'est incontestable.
C'est incontestable. Non, mais que
il y a peut-être eu des lettres... Je ne sais pas si...
Il y en a une qui est publiée dans Les financiers du monde.
Et il y a eu des lettres entre Bernanos et Coston qui ont été publiées dans les études bernanosiennes. C'est vrai qu'ils étaient en correspondant.
Oui, mais...
Tu as apporté ces lumières, ça, je ne pense pas.
Je penserais plutôt le contraire, c'est il a écrit à Bernanos après le livre. Mais encore une fois, il faudrait la vérifier.
Le documentaliste n'est pas là.
Mais on peut donner aussi
il n'est plus là.
De finir, on peut donner un autre exemple aussi qui est quand même assez extraordinaire. Bon, c'est quand même Monsieur Bettencourt. Monsieur Bettencourt qui est marié à la femme la plus riche de France.
Il est en cours, mais il n'est pas si bête.
Bon, Monsieur Bettencourt a écrit dans certains journaux durant l'occupation, et je dis rien, mais dans le dictionnaire de la politique française, il y a un extrait qui est représenté, nous les jeunes, etc. Bon, le travail est fait.
Oui, les jeunes.
C'est ce que vous dites.
Oui,
les jeunes.
Le boulot est fait. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Et il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Klarsfeld qui, 40 ans après,
il sait pas lire,
en association avec monsieur Friedman, qui était rentré pour une obscure, pas pour des raisons financières, en conflit avec le groupe L'Oréal, qui, à partir du travail de Coston, a dépouillé l'ensemble de cette revue et a publié ensuite toute une série de documents, ce qui fait que pratiquement M. Bettencourt n'avait plus le droit de mettre les pieds aux États-Unis, et ça fait beaucoup de tort au groupe L'Oréal. Ouais. Et ça, à l'origine,
au fond, on peut dire aussi une chose, parce qu'on pense au point de vue politique, au point de vue des engagements, on pense ce qu'on veut. Les gens, ils pensent ce qu'on veut. Mais quand on a fréquenté intellectuellement et professionnellement Coston, et quand on a fréquenté intellectuellement et professionnellement Forisson, quand on est journaliste, on prend des leçons de travail tous les jours.
Merci François. On reprend la parole après la coupure technique. Ouais, c'est le mot que je cherche toujours.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekedge, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct mercredi 10 octobre 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 11 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, sans désemparer la suite des messages.
Alors, on nous signale que le dictionnaire tome 5 d'Henri de Coston est toujours disponible à la Licorne Bleue, 3 bis rue Jules Vallès dans le 11e, 01 46 59 18 20. Coston avait créé une nouvelle société Henri Coston pour l'exploitation de son œuvre avec Mademoiselle Boucher et Thierry le libraire. Qu'on se rassure, ses livres seront protégés. Monsieur Ratier, bravo, mais comment faire pour vérifier la validité des informations?
Il faut faire comme lui, il faut travailler 24 heures sur 24.
Je sais pas, les miennes, c'est pas difficile, si je me trompe.
Boum, directement.
On me rate pas, c'est pas compliqué. Hein.
Pouvez-vous donner quelques titres de livres? Quelques titres de livres d'Henri Coston?
Alors, Benoît Mangeron.
Voilà.
Non, mais maintenant, il peut. C'est...
Outre les quatre tomes du dictionnaire de la politique française, et j'insisterai particulièrement sur le premier volume, qui est une mine de renseignements sur les hommes politiques, le monde politique du début du siècle et de la fin du siècle dernier. Vous pouvez trouver Les financiers qui mènent le monde, qui est quand même le livre phare, qui est toujours disponible, bon, à la diffusion de la pensée française, du gain de diffusion, ainsi que la plupart des autres ouvrages du type parti, journaux et hommes politiques, ainsi que Le veau d'or est toujours debout, etc. Le dictionnaire des changements de nom, auquel Emmanuel d'ailleurs a collaboré dans la réédition
qu'il a repris,
commune.
La République du Grand Orient.
La République du Grand Orient.
Extrêmement importante.
La fortune anonyme vagabonde.
Les Juifs dans la France d'aujourd'hui, sous le pseudonyme de Gigès.
Ça n'existe plus.
Voilà quelques titres.
Alors, Monsieur Serge de Bekedge, pour les élections présidentielles, je vous conseille de demander conseil à Claude Reichmann, qui s'est déclaré candidat mardi à cette radio.
Allons.
Étant donné qu'il ne fera pas 5%, il doit avoir des fonds et savoir en recueillir.
Il est candidat aussi, lui.
Et une auditrice.
Je croyais être le seul candidat de Radio Courtoisie.
Et une auditrice. Ce soir, je comprends mal l'humour de Serge de Bekedge quant à la candidature du docteur Reichmann, dont là, le programme aurait l'avantage de remettre la France sur ses rails, ce qui prouve qu'une union en dehors de la gauche serait possible.
Mais j'ai pas parlé de ça du tout. J'ai dit que j'étais candidat, moi. J'ai dit je suis candidat aux élections présidentielles. Aidez-moi, connaissez mon programme, envoyez-moi 700 francs, 4 places France Litz, 75 010 Paris 10e. Et pendant un an, vous recevrez tous les 10 jours le Libre Journal dans lequel il y aura mon programme. Qui n'est pas compliqué. Pas d'impôts. La retraite pour tout le monde à 10 000 francs par mois. Pas de cotisation de retraite. Le transport gratuit. Enfin, je vous dirai la suite plus tard. C'est un programme formidable. Le premier, on supprime les impôts.
Un auditeur demande de préciser l'adresse du restaurant chez Amar où l'on mange du très bon couscous.
En face de Saint-Nicolas, un peu à droite.
Ouais. Vous traversez et vous marchez
En face à droite.
Voilà. Chez Amar.
Voilà. Vous demandez chez Amar et puis vous irez manger le couscous.
Pouvez-vous rappeler les
corps... Le très bon couscous, c'est surtout le dimanche.
Voilà.
Après la messe.
Avec un des meilleurs, ça je peux le dire, un des meilleurs gigots de Paris.
Absolument, un des meilleurs gigots de Paris.
À des prix défiant toute concurrence.
Amar est le seul musulman intégriste catholique. C'est compliqué, mais c'est comme ça.
Il est berbère, et on peut boire quand même du vin chez lui, c'est bien.
C'est même recommandé.
Pouvez-vous rappeler, M. Brignot, les coordonnées de vos éditions et les titres disponibles?
Eh ben, alors, moi, je vais le faire à la place de François, parce que je sais qu'il a horreur de ça. Donc, voilà. Alors,
non, il faut... Là, il y a une petite chose que qu'on dise aussi.
Ben, voilà. Il y a les auto-éditions François Brignot. Et alors, les auto-éditions François Brignot vous proposent une offre exceptionnelle.
Non, juste, je voulais dire un mot.
Oui, allez, dites-le.
J'ai décidé de ne pas vendre des livres que j'avais écrits en français, publiés en français, de ne pas les vendre en euros. Par conséquent, je décide de vendre le stock qui me reste. Quand vous achetez pour 100 francs de livre, vous payez 500 francs.
Quand vous achetez pour 1000 francs de livre, vous payez 500 francs.
C'est voilà. Ça. Oui, je ne suis pas très, très fort sur les chiffres.
Déjà, les nouveaux francs, ça vous plaît
francs, franco de peau.
Même pas les nouveaux francs, alors l'euro. Voilà, il y a donc tous les...
Et alors, il doit y avoir une trentaine de titres.
Voilà. Sauf mon journal de l'an 2000. Ah si, il est là. Oh là là, j'en réserve. J'en réserve un tout de suite.
Ah, il n'en reste plus que 50 ou 60.
Ah, oui, ben justement, j'en réserve.
Mais il y a beaucoup, il n'en reste plus que 50 ou 60.
Alors, l'adresse, c'est donc auto-édition François Brignot.
21
rue Mademoiselle, 75 015 Paris. Alors, il y a tout. Pas l'œuvre complète, mais il y a beaucoup de choses. Oui, oui.
Ouais.
Voilà. Pour 1000 francs, pour 500 francs, vous avez 1000 francs de livre. Pour 2000 francs, vous avez 4000 francs de livre. C'est formidable.
Où peut-on trouver la lettre d'Emmanuel Ratier? Il est écrit octobre 118. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, il peut le dire.
Oui, non, mais bon, bah, c'est mon adresse, c'est BP 254, 75 424, Paris, CEDEC 09.
Répétez-moi ça, parce que c'est d'une telle beauté.
Mais oui, mais je peux rien, j'ai pas d'adresse, j'ai pas envie de sauter. BP 254, 75 424, Paris, CEDEC 09. Les gens peuvent m'écrire, je leur enverrai un numéro.
Bon, bien. Benoît, vous avez aussi sorti un numéro de lecture française qui est consacré à Coston, avec une belle photographie, puisque je voulais absolument qu'on en donne la description. Bah, il est en photo à la une, et c'est quand même une belle brochette de signature.
Oui, alors c'est un premier numéro d'hommage qui comporte une vingtaine d'articles, une vingtaine d'hommages d'André Figueras à Jacques Plancard d'Assac, en passant par Pierre de Villemarais, Roland Gaucher, Francis Bergeron, évidemment Emmanuel Ratier, Michel de Mony, qui l'a très bien connu, ainsi que des gens comme Daniel Raffard de Brienne, ou comme Pinatel, qu'il a remarquablement représenté.
L'excellent Pierre Pinatel. On va l'inviter un jour pour qu'il nous raconte sa vie, parce que c'est quand même un des plus grands dessinateurs de la droite nationale, celui-là. Et quelle carrière!
C'est un homme charmant avec beaucoup d'esprit.
Ouais.
Donc c'est paru
dans la revue. Une femme aussi adorable que lui.
La revue Lecture Française qu'il avait fondée. Qu'il avait fondée en 1957 et qui a été reprise donc dans les années 80 par la diffusion de la pensée française.
Voilà, donc ça on peut se le procurer. Bah, vous connaissez l'adresse, c'est boulevard du Cannes ou à Chiron-Montreuil, selon que vous êtes provincial ou parisien. Mon cher Henri, on vous a pas beaucoup entendu ce soir. C'est vrai que vous êtes vraiment le cadet de la bande. Mais vous publiez quand même. Vous faites votre petit coston à vous aussi. Vous compilez pas mal. Et vous publiez un truc qui est très joliment appelé Les Lettres Fersan.
Oui, c'est un petit mensuel donc des publications Henri de Fersan. Un petit mensuel qui vise un peu dans l'esprit de Henri Coston que hélas je n'ai pas connu en vue de mon jeune âge, mais dont j'ai fait un peu mon maître impensé, dont je m'inspire dans ma méthode de travail, et qui vise donc à braquer le projecteur sur des gens, des groupes philosophiques, des sociétés philosophiques ou autres qui aiment plutôt rester dans l'ombre.
Alors, où est-ce qu'on se procure ces lettres Fersan?
Alors, les lettres Fersan, on se les procure aux publications Henri de Fersan, boîte postale 18 63 670 Le Cendre, en deux mots, donc cendre comme de la cendre. Et donc, bah, les auditeurs qui seraient intéressés, qui m'écrivent à cette adresse, et je leur enverrai un exemplaire de démonstration. Donc, c'est un mensuel, et l'abonnement annuel est de 120 francs.
Voilà. Mais j'ai réchauffé un serpent dans mon sein, parce que voilà, c'est toujours pareil. Je fais venir le petit Fersan, je fais de lui un journaliste, hein, je le ramasse dans le caniveau, pratiquement. Il vient, il travaille dans mon journal, et padaboum, il me balance un concurrent. J'invite Philippe Plancard-Assac à écrire dans le Libre Journal, et badaboum, il me... Non, il faut arrêter maintenant, les gars. C'est quand même... C'est moi qui fais un journal. Le Libre Journal, 4 places France Lille, 75-010. Amiche, j'invite Amiche à venir dans mon émission à Radio Courtoisie. Il me fait... Non, lui, pas un journal. Il me fait 36 000 journaux. C'est le Citizen Ken de la légitimité. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Comment voulez-vous qu'après je sois pas obligé d'envoyer des supplications à mes amis auditeurs en leur disant, ce que je vais leur dire maintenant, et au secours?
Mais pourquoi vous n'exigez pas votre pourcentage sur tout ça? Pourquoi c'est là que vous soyez riche.
Pourquoi je n'exige pas mon pourcentage?
Ben oui.
Parce que j'ai pas été élevé comme ça, ma bonne Cécilia, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça le malheur. Oui. Vous voulez dire quelque chose?
J'ai deux annonces.
Alors faites-les vite, parce qu'après je parlerai à Arnaud Guyot-Janin et on laissera la place à Cécilia.
Michel Ney serait officier des arts et lettres.
Oui, mais ça, on s'en fout. Ce qui est vrai, c'est que c'est très bon aquarelliste.
De vous recevoir à son atelier pour son exposition Bretagne, Vallée du Lot et Yvelines, du samedi 6 octobre au dimanche 25 novembre, les samedis, dimanches et jours fériés, le 14 à 18h.
Qu'est-ce qui fait du bruit comme ça?
C'est
là,
c'est Guyot-Janin, là.
Décidément, Guyot-Janin, vous n'en ratez
ça
pas.
Ça se passe. Hameau des Lais, en face de la chapelle, 78 690 Les Essarts-le-Roi, téléphone fax 01 30 41 66 67.
Alors, allez les voir, parce que c'est vrai que Michel Ney est un vrai aquarelliste, avec un vrai talent d'aquarelliste. Il fait des aquarelles, et notamment, il a fait des aquarelles sur Bréa, des aquarelles de Bréa, que je connais bien, et je les ai regardées avec un vrai bonheur, parce que j'ai l'impression d'un seul coup d'être précipité à Bréa. Allez les voir. Rappelez-nous l'adresse, s'il vous plaît, Victoria.
C'est Atelier Michel Ney, Hameau des Lais, en face de la chapelle, aux Essarts-le-Roi. On n'écrit pas, et le téléphone fax, c'est 01 30 41 66 67.
Voilà, c'est bien.
Et puis, le Cercle algérianiste de Paris vous propose d'assister le samedi 17 novembre à 15h, dans les locaux du Musée Social à Paris 7e, 5 rue Lascaz, métro Solferino, à une conférence de Madame Jeannine Verdeleroux, auteure de « Les Français d'Algérie de 1830 à nos jours », aux éditions Fayard. À l'issue de la conférence, Madame Verdeleroux dédicacera son ouvrage. Participation aux frais, 30 francs. Pour les renseignements, 01 42 03 31 21.
Voilà. Alors, Arnaud, je vous ai demandé de venir ce soir parce que vous avez eu une initiative qui me paraît très heureuse. Vous avez lancé le collectif Non à Halloween.
Oui.
Et on est en plein, là. Ça démarre.
Ça a commencé.
On commence à voir apparaître des têtes de mort dans toutes les boutiques, y compris les charcuteries.
Partout en France.
Alors, quels sont les objectifs, quels sont les moyens et quelles sont les actions que vous prévoyez?
Alors déjà, on va faire une conférence de presse en début de semaine prochaine pour annoncer le lancement du collectif Non à Halloween. Et puis nous allons mener quelques actions spectaculaires, mais on ne dira pas encore où sont les lieux et où sont les personnes qui vont faire en sorte qu'on puisse mobiliser de très nombreuses personnes face à Halloween. Et puis nous ferons une réunion à la fin du mois, le 26 probablement. Cela est encore pas tout à fait défini, pour essayer de faire venir le maximum de personnes pour se mobiliser contre Halloween. On a un site internet qui permet justement de se tenir au courant des informations et des renseignements. On peut donc faire le http://cnah.ifrance.com. Je répète, http://cnah.
CNH, c'est collectif non à Halloween.
ifrance.com.
Vous prévoyez des actions
Il va y avoir des actions devant des grandes surfaces, devant des magasins. On va essayer de faire prendre conscience à travers des tracts et à travers les gens qui marchent avec nous et qui sont déjà fort nombreux,
C'est pas le diable qui marche avec vous.
Mais non, c'est pas le diable qui marche avec nous. Et la réunion d'ailleurs de la semaine dernière à Sol Invictus s'est fort bien passée. On a commencé sur les chapeaux de roue, donc on espère continuer et poursuivre la suite logique, car je pense que d'ici 10 jours, ça va être encore plus renforcé, ça va être encore plus puissant que les précédentes années. On va probablement assister à un déferlement absolument hégémonique et absolument démentiel, donc ça vaudra le coup, à mon avis, de résister et d'engager toutes les personnes
Rien n'interdit d'être extrêmement désagréable avec les commerçants qui participent.
Par exemple, ou de leur dire gentiment qu'on ne reviendra pas acheter du pain dans la boulangerie où l'on va d'habitude, si par exemple, ils continuent à vendre du Halloween.
Il y a trop de cadavres dans votre boutique, je n'achèterai plus rien. Parce que c'est contagieux. Vous risquez de revenir avec le bacille du charbon.
On peut leur dire gentiment si on les connaît un peu. On peut leur dire plus désagréablement s'ils sont désagréables avec vous.
Il faut toujours, a priori,
il faut s'adapter.
Bon, donc je rappelle l'adresse du collectif Non à Halloween, l'adresse internet http://cnah.ifrance.com. Et il y a une adresse de siège social.
Oui, c'est là où on peut écrire au collectif Non Halloween et adhérer au tarif de 100 francs.
Pour les rares arriérés qui n'ont pas encore internet.
Pour les personnes qui peuvent envoyer un chèque de 100 francs pour adhérer donc au collectif Non Halloween, ils peuvent écrire au 73 boulevard du Commandant Charcot, 92 200 Neuilly-sur-Seine, 73 boulevard du Commandant Charcot, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Il faut vraiment essayer de vous mobiliser parce que face aux événements actuels, il y a probablement une démobilisation relative car on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs. Et tout est un petit peu polarisé là-dessus, mais je pense que Halloween, ça va continuer dans les prochaines années et ça serait bien de pouvoir se mobiliser, de résister comme il se doit face à Halloween, en essayant aussi de faire prendre conscience aux autorités ecclésiales et à l'Église qu'il faudrait revivifier la Toussaint et créer une vraie alternative face à Halloween, pas simplement critique, mais montrer en quoi on peut essayer aussi de proposer des solutions.
J'ai un slogan pour vous. Halloween, Ben Laden, même combine. C'est pas mal, non ?
Pas mal.
Bon, je laisse maintenant la parole à mon excellent camarade Cécilia, qui reçoit une invitée
prestigieuse.
Voilà. Merci de m'avoir soufflé le mot. Je vous laisse la présenter, Cécilia, après la petite musique de rigueur.
La petite musique.